Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vivante Église en ce jeudi 8 septembre. Et qui dit jeudi dit zoom sur un fait d'actualité. Et aujourd'hui, on va revenir sur le reportage de Marie-Pierre Pavlak diffusé hier dans Vivante Église. Un reportage où elle a été à la rencontre des femmes détenues en fin de peine et qui s'engagent dans une ferme Emmaüs à Tarnos du côté de Bayonne. Et aujourd'hui, on va se poser cette question du pardon pour les détenus. Est-ce que la société doit-elle déjà pardonner? Un détenu qui a purgé sa peine peut-il redevenir digne de confiance? Et on se posera aussi la question du pardon des familles. Arrivent-elles toujours à pardonner? Et si oui, comment font-elles? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Gimonet, ancien aumônier de prison, bénévole à Radio Présence et ancien animateur du téléphone du dimanche et pour être pleinement complet, animateur d'une chronique hebdomadaire sur les prisons. Bonjour Bernard Gimonet.
Bonjour.
J'ai aussi en face de moi le père Bernard Dupuis-Montbrun qui lui a été aumônier de prison. Bonjour mon père.
Bonjour.
Et j'ai aussi le plaisir d'avoir juste à côté du père Dupuis-Montbrun Jean-Louis Grenier, bénévole et membre du bureau de l'association Roque-Claire et visiteur de prison pendant 15 ans, bonjour à vous.
Bonjour.
Bernard Gimonet et mon père, vous êtes ou vous avez été aumônier de prison tous les deux. Monsieur Jean-Louis Grenier, lui, a été visiteur de prison. Déjà, quelle différence on fait entre les deux?
Le visiteur de prison, c'est, selon le code de procédure pénale, un substitut familial. Tandis que l'aumônier de prison, toujours selon le code de procédure pénale, est un aumônier qui a une mission spirituelle. C'est ainsi écrit. Donc, c'est pas la même perspective, si vous voulez, et c'est pas non plus la même présence en détention. Le visiteur reçoit dans un parloir qui est spécialisé pour ça. Nous avons, en tant qu'aumônier, la possibilité de nous balader partout dans l'établissement, selon le règlement intérieur. Voilà, grosso modo, la distinction. Mais la mission spirituelle est très spécifique. Et il ne faut pas agir comme aumônier en étant visiteur, ni comme visiteur en étant aumônier. Il faut savoir que chacun soit à sa place. Mais on est en relation, bien sûr, ensemble pour réfléchir sur le sort d'un condamné, surtout quand il approche de la sortie.
J'aimerais qu'on aborde cette question centrale du pardon, qui est la thématique de cette émission. Pardon et foi, c'est deux sujets qui sont très liés, Bernard Gimonet.
Oui, c'est sûr. Je voudrais revenir sur le mot central. Qui peut prêter à confusion. Le pardon, c'est plutôt un but, c'est plutôt le résultat d'une très longue démarche. Et avant d'atteindre ce but, il y a de nombreux obstacles. Le premier obstacle étant le déni, qui n'est pas toujours la simple et brutale négation des faits, mais une stratégie d'évitement. Celle de Caïn qui ne dit pas « je n'ai pas tué », mais qui dit « suis-je le gardien de mon frère ?» Voilà. Et donc, quand on s'appuie sur l'Évangile et la Bible, on trouve effectivement des résonances avec ce que vivent les détenus, et ça permet de les aider dans cette démarche vers le pardon, qui est parfois une démarche très longue.
Alors il y a ceux qui sont en effet incapables de regarder en face leur crime, et puis il y a ceux qui ne se pardonnent pas aussi eux-mêmes, et qui ne se pardonnent jamais. Je donne un exemple, une lettre que j'avais reçue il y a fort longtemps, en 2001. Un condamné qui se suicide, et avant il m'envoie cette lettre. Je n'ignore pas que le suicide est condamné par l'Église, mais tant de choses sont condamnées à droite comme à gauche. J'ai supplié le Christ, j'ai appelé au secours si fort. Mais je ne suis qu'un publicain. J'aime surtout Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, mais je n'ai fait que du mal, et je crois bien que j'ai vraiment plus de raison de continuer à déranger les bons. Je suis plus qu'un pécheur, peut-être le dernier des pécheurs, mais pire encore, j'ai tué, volé, menti, pratiqué l'adultère. Je me drogue et me détourne de celui que j'aime pourtant tant. Il est certain que si je pense du mauvais côté, c'est un choix, mais je n'en peux plus de vivre si mal. Quand vous irez-vous? Il s'adresse à moi. Quand vous irez, vous, le rencontrer, c'est-à-dire rencontrer Dieu, vous pourrez lui dire que même si là où je me trouve, il fait très chaud, C'est en pensant à lui que je tiens, jusqu'à ce que je me consume à nouveau de ne pas avoir compris. J'ai connu des gens d'église vraiment exceptionnels, mais ce n'est jamais dans un fauteuil en cuir, cigare et cognac. Je les ai connus dans la boue, la peur, les barreaux. Vous êtes de ceux qui savent. Voilà la situation spirituelle dans laquelle on est souvent confronté, c'est-à-dire avec des condamnés qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes et qui en arrivent au suicide. Mais vous remarquerez que dans cette lettre, il m'accorde la possibilité d'aller après sa mort et la mienne, le chercher en enfer pour le ramener près de Dieu. Mais de toute façon, pour moi, c'est un homme qui est sauvé parce qu'il croit encore en Dieu, quel que soit le drame de son existence. C'est en quelque sorte le bon larron.
Pour les non-croyants, est-ce que cette question du pardon, elle est aussi présente dans leur esprit? Est-ce que vous l'abordez avec eux? Comment ça fonctionne? Bernard Gimonet.
On ne peut pas l'aborder comme ça, de but en blanc, parce que ils sont très chatouilleux sur l'idée que on va les rejuger à nouveau. Donc, on ne peut qu'accompagner la démarche, éventuellement la susciter, mais en aucun cas la piloter. Ceci dit, ils abordent. Je peux raconter une anecdote un peu amusante. C'est un jeune très très perturbé qui me dit: j'aimerais bien me confesser. J'ai dit: écoute, c'est facile, le père est en train d'animer l'atelier de lecture de biblique, mais dans un quart d'heure il sort, on va l'attendre. Donc on s'assoit et puis on commence à discuter, et puis il commence à me raconter son histoire, et à un moment, il se lève, il s'en va. J'ai dit: attends, mais c'est bon, là, il va sortir dans 3 minutes, là. Il m'a dit: tu veux plus te confesser? Il m'a dit: ah, mais non, mais ça y est, c'est fait. Donc, donc voilà, c'est la seule et unique confession que j'ai réalisée de ma vie. Oui. Un professeur de droit canonique qui est à ma droite me fait les gros yeux, mais...
Non, pas du tout.
Mais voilà, ça veut dire que... Il y a cette démarche avec les non-croyants, ou même avec les croyants, une démarche un peu préparatoire. On ne pose jamais de questions, hein, c'est eux qui doivent parler.
Oui, c'est vrai.
Et donc pour eux, parfois, c'est parler à un aumônier, c'est une démarche qui les libère, qui les soulage, ou qui prépare la confession.
C'est-à-dire que l'aumônier, on ne sait pas trop ce que c'est en prison, mais ça ne peut pas faire de mal. Alors, on l'accoste, on lui parle, et la plupart des détenus sont des bavards. Ils parlent beaucoup, hein, ils ne sont pas du tout, sauf les malades mentaux qui rasent les murs et dont le regard est figé. Alors, que ce soit croyant ou pas, ils nous accostent. Et d'ailleurs, c'est une chose qui nous a frappés tous les deux, c'est que le bon Dieu est très présent en prison, contrairement à ce qu'on pense. Même la Vierge Marie, dont on fête aujourd'hui la naissance, elle est vraiment présente en prison. On rencontre des gars qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et qui nous disent: « Ah, monsieur l'aumônier, comment allez-vous? Le bon Dieu est avec vous! Le bon Dieu est là !» Des réactions tout à fait spontanées qui nous étonnent, qui nous surprennent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre aussi que le combat pour nous, et d'être en face de gens qui sont prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers de leurs crimes. Donc le combat consiste à rechercher encore chez eux un espace de liberté pour que la peine qu'ils subissent se transforme en pénitence. Or chez nous, la pénitence, c'est un choix. Et il faut arriver à ce choix, ce que d'ailleurs l'auteur de cette lettre que je vous ai lue n'a pas pu faire. Donc la pénitence se subit, mais la peine se subit, pardon, mais la pénitence se choisit. On est donc des apôtres de la pénitence, précisément pour que le pardon soit dans le cœur de celui qui est en face de nous. Mais c'est tout un cheminement, c'est très long, vous savez, on commence pas, on n'arrive pas avec des idées toutes faites. Hein. On suit l'homme à la trace et on marche avec lui, côte à côte, comme on peut. Hein. De temps en temps, il n'y a que deux pas qui marchent parce que le bon Dieu l'a porté pour traverser la rive de l'inquiétude. Bon, voilà. Donc c'est un combat qui est délicat, très délicat. Et on n'a pas le droit de se tromper, hein. Il faut faire attention.
Jean-Louis Grenier, j'aimerais vous entendre sur cette thématique où vous avez été visiteur de prison. Cette question du pardon, sachant que vous n'êtes pas aux côtés des détenus, vous ne l'abordez pas, mais est-ce qu'avec les familles, c'est quelque chose que vous évoquez ?
Alors, auprès des familles, même en tant que visiteur de prison, la question du pardon, nous ne l'abordons pas directement. Ce n'est pas dans notre démarche. Avec les familles, nous sommes là dans une relation d'écoute, une écoute bienveillante. Nous sommes là pour accueillir leurs paroles, leur silence aussi, si elles ont envie de se taire et de rester tranquilles, mais dans un espace chaleureux, en particulier lorsque nous intervenons devant le centre de détention de Muret, il y a un petit bâtiment là qu'on appelle la maison des familles, et non abri d'ailleurs, il y a une évolution, l'abri est devenu maison, c'est-à-dire un peu plus chaleureux, un peu plus confortable aussi, avec des sanitaires, pour ce qui est de l'association, avec un coin où on offre un peu de café, un thé, quelques petits gâteaux, histoire de créer une ambiance apaisante, parce que être reçu par une porte de prison, ça dit quelque chose, et il y a de la réalité là-dedans. Donc nous sommes là pour dans un espace convivial. Ces familles, elles s'expriment dans certains cas. Elles nous parlent un petit peu de ce qu'elles vivent, de ce pourquoi elles sont là. Et on se rend compte que la société n'est pas tendre avec elles. En particulier, elles ne peuvent pas s'exprimer avec leurs voisins. Elles ne peuvent pas s'exprimer à l'école avec leurs enfants, sinon elles sont stigmatisées. Elles ne peuvent pas s'exprimer avec leur employeur. Et même au sein de leur propre famille, assez souvent, on leur reproche dans le genre « on t'avait bien dit qu'avec ce gars-là, ça se passerait, etc. » Donc, nous sommes là dans un lieu d'accueil, un havre un peu. Et bon, la question du pardon n'est pas au centre, mais on se rapproche un peu de l'estime de soi. Ces familles ont une estime d'elles-mêmes un petit peu fracassée. Parce qu'on leur renvoie toujours qu'elles sont un peu responsables de ce qui s'est passé. Entre parenthèses, elles n'ont pas été jugées, elles n'ont pas été condamnées, elles ne sont pas, elles ne sont pas impliquées directement. Hein. Mais il n'empêche qu'elles subissent de plein fouet cette incarcération. Et donc nous sommes là pour faciliter, dans un rôle de facilitateur.
Justement, est-ce que pour qu'un détenu, une détenue, se pardonne lui ou elle-même, est-ce qu'il faut qu'il ait l'aval ou le pardon déjà de sa famille, Bernard Gimonet?
Alors ça permet d'aborder un sujet très, très compliqué, c'est-à-dire que le pardon, c'est pas... ça ne doit pas être conçu comme quelque chose à sens unique, c'est-à-dire que la personne détenue doit demander pardon pour le mal qu'il a fait. Mais il a aussi à accorder son pardon à sa famille, qui de temps en temps, ça peut arriver, la laisser tomber, parce que c'est trop dur, comme l'a très bien expliqué Jean-Louis, ou... Pire, parce que, par exemple, ils ont subi dans leur jeunesse des agressions qui les ont conduits, sans que cela n'excuse en rien ce qu'ils ont fait, qui les a conduits à reproduire les mêmes agressions. J'ai pas besoin de faire un dessin, tout le monde comprend de quoi je parle. Et pour ça c'est très compliqué, parce que J'ai animé une session biblique sur le fils prodigue, et un des détenus a dit « Ah ben moi, quand je sortirai d'ici, si mes enfants viennent me revoir, je leur pardonnerai. » Et un autre a dit « Mais attends, tu te trompes de casting, là, tu es dans le rôle du fils prodigue. » Mais non, il était aussi dans le rôle du père. Et ensuite, quand on a parlé du fils aîné, il y en a un qui a dit « Ah mais je le connais, le fils aîné. » J'ai dit « Ah bon, qui c'est ?» Et oui, c'est la partie civile. Et ça, c'est dramatique. Ce terme de partie civile me hérisse toujours un peu, parce que c'est le terme juridique, mais il masque la réalité humaine de la victime. C'est épouvantable. Et donc, voilà deux difficultés pour le pardon. Comment demander pardon quand soi-même on n'est pas capable d'accorder le pardon? Et puis, comment vraiment prendre conscience du mal qu'on a fait? Si on n'a pas cette conscience, on ne peut pas demander pardon.
Oui, je rejoins ce que dit Bernard, évidemment, pour dire ceci. Lorsque je confesse un condamné qui le demande, ça arrive, je ne vous dis pas que ça se fasse tous les jours, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises, notamment avant qu'il meure. J'ai toujours préparé, bien sûr, cette confession. Et à un moment donné, le condamné me dit « Voilà, je reconnais que j'ai été violent et que j'ai commis ce crime. Bon. Et alors, est-ce que tu crois que Dieu peut me pardonner ?» Alors je lui dis « Écoute, c'est pas moi qui suis Dieu. Hein. Moi, je suis là pour écouter ce que tu dis, constater que tu le dis librement en connaissance de cause et que tu le regrettes profondément, ce qu'on appelle la contrition. » Et que tu demandes à Dieu son secours. Lorsque je l'ai constaté, et ce n'est pas de l'angélisme, hein, bon, lorsque je l'ai constaté, je lui dis toujours, maintenant je te donne le pardon de Dieu pour que tu fasses toujours du bien. C'est la seule chose qu'il faut que tu fasses, parce que quand tu seras devant lui, il retiendra d'abord le bien que tu as fait avant de voir les conneries que tu as faites. Bon, et après il se débrouillera avec tes conneries. Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra que tu pries pour la victime. Car moi, je ne suis pas habilité à te dire que la victime va te pardonner. Il faut que tu demandes au bon Dieu que la victime puisse te pardonner, qui est morte et qui était près de lui. Vous voyez un peu la démarche. On n'oublie jamais les victimes. Hein. Sinon, on fait de l'angélisme, je le répète. Hein. Donc, il faut savoir adopter une pédagogie de la pénitence, en quelque sorte. Parce que la pénitence, ils sont incarcérés, ils la font, la pénitence. Tous les matins et tous les soirs, ils savent qu'ils sont en prison. Et on leur rappelle tous les matins et tous les soirs qu'ils sont des assassins, si vous voulez. Enfin, ça revient à ça. Bon. Et puis, entre eux, ils se jugent et se condamnent. Hein. C'est pas tendre. Hein. Bon. Alors donc, c'est toute une pédagogie. Et le bon Dieu fait son œuvre.
On va faire une petite pause musicale et on revient dans moins de 3 minutes pour continuer à aborder cette question du pardon. On écoute Les Portes du Pénitencier de Johnny Hallyday.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini.
présence.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et autour de la table avec moi pour cette émission sur la question du pardon, Bernard Gimonet, ancien aumônier de prison, bénévole à Radio Présence et ancien animateur du Téléphone du Dimanche, le père Bernard Dupuis-Montbrun, ancien aumônier de prison, et Jean-Louis Grenier, bénévole à l'association Roqueclair et visiteur de prison pendant 15 ans. Jean-Louis Grenier, l'association Roqueclair, vous, ça fait combien de temps déjà que vous y êtes? Et qu'est-ce que vous y faites concrètement? C'est l'accompagnement des familles de détenus, c'est ça?
Alors, je suis à l'association Roqueclair depuis une douzaine d'années à peu près. Association qui, elle-même, a 50 ans d'âge. C'est quand même un bel âge, nous les avons fêtés cette année. À cette association, nous avons deux activités. L'une dont j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un accueil des familles devant le centre de détention au moment des parloirs, le samedi et le dimanche. La deuxième activité est l'hébergement des familles qui habitent loin et qui ont besoin d'être logées à moindre coût et dans un environnement assez favorable, accueillant, un peu sympathique, qui se trouve à Roque, sur Garonne. Voilà, et dans ce cadre-là, nous essayons de créer des liens, de faire en sorte que ces gens puissent s'exprimer, se retrouver et se retrouver aussi eux-mêmes en parlant avec d'autres, alors que dans la vie courante, elles ne peuvent pas s'exprimer sur ces problèmes-là.
Bernard Gimonet, par rapport au rôle de cette famille, le fait de maintenir les liens familiaux, comme le fait l'association Roqueclair, c'est indispensable dans le cheminement du détenu pour se pardonner, que la société le pardonne et que sa famille le pardonne?
Ah ben oui, c'est fondamental, parce que être coupé de sa famille, ça fait partie de la déshumanisation générée par la prison. D'abord générée par le crime lui-même, mais bien sûr, mais aussi par la prison. Et donc le contact, maintenir le contact avec les familles, c'est très important. Pour ça, je suis très heureux d'avoir animé une émission du Téléphone du Dimanche pendant des années où on donnait la parole aux familles qui pouvaient, sur l'antenne, en direct, envoyer des messages de soutien. Mais moi, j'avais évidemment une vision très positive des familles, parce que celles qui appelaient, c'était au contraire celles qui avaient plus que pardonné, qui étaient dans le soutien. Je voudrais donner un petit exemple pour vous montrer que le pardon est un mot très fort, un peu trop galvaudé parfois, surtout au cours des procès. Quand un criminel demande pardon au cours du procès, on peut toujours avoir le doute en disant « Ah, il demande pardon, mais c'est peut-être pour essayer de diminuer sa peine, c'est le jeu aussi. » Et puis, il y a des pardons accordés du bout des lèvres, et puis il y a d'autres pardons qui sont beaucoup plus profonds. Avec Bernard, on a vécu une expérience extrêmement émouvante. C'est un détenu que j'accompagnais à Muret, et qui avait été condamné pour des faits très graves d'agression sexuelle sur des enfants. Et sa fille faisait partie des victimes. Et quand il est décédé, l'aumônier de l'hôpital nous a demandé de venir animer un petit service religieux, pas une messe. Et bon, avec Bernard, on a dit « bien sûr, on va venir ». Et là, on apprend que sa fille serait présente. Donc on était un petit peu dans nos petits souliers quand même. On se demandait comment ça allait se passer. Et donc moi, j'avais préparé une petite intervention pour expliquer ce qu'il vivait. Et puis la fille de ce monsieur a dit « moi, je vais parler ». Elle a commencé complètement étranglée dans les larmes. Je me suis dit « ça va, elle n'arrivera jamais à dire un mot ». Et en fait, elle a eu une intervention absolument magnifique, au cours de laquelle elle a dit quelque chose que nous, on dit de temps en temps, mais sans trop. C'était que son père était finalement sa propre victime. Là, on était au-delà du pardon du bout des lèvres. Et quand on est revenu en détention, on a raconté ça au gars. Et il y en a un qui m'a dit, tu sais, son plus grand son plus grand souhait, son, la plus grande souffrance, c'était de pouvoir se réconcilier avec sa fille. Et on lui a dit, tu peux être rassuré, c'est fait.
Oui. Écoutez, on a parfois des exemples exceptionnels. Moi, je me souviens d'un cas qui est le suivant. Le détenu avait perdu connaissance de sa fille depuis longtemps. Il ne l'avait pas vue depuis au moins 15 ans. Et avec l'aide du service social et de la gendarmerie, nous avons fait des recherches. On a retrouvé cette fille qui était au Canada, elle est venue en France, elle est allée voir son père qui était donc détenu. Et même le service social se demandait comment cette relation allait pouvoir se faire. Et il m'avait demandé d'être pas loin de cette relation. D'ailleurs, lui-même était très content que je sois là. Mais alors, c'était très impressionnant parce que il y a eu une embrassade entre sa fille qui découvrait son père incarcéré et lui, qui relève d'un instant d'éternité, si vous voulez. Et le père demandant pardon à sa fille et la fille accordant son pardon à son père. Voilà, c'est un exemple hein, parmi d'autres. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre que tout ça, ce sont des actes ponctuels qui existent. Ça ne veut pas dire que ça se généralise pour autant, mais nous, nous sommes témoins de la grâce de Dieu en détention lorsqu'elle a fait son œuvre. Et on n'est que des petits serviteurs de cette grâce. La tâche de l'aumônier, c'est d'être là au bon moment. C'est tout. Et dans l'histoire d'un homme qui est condamné, il est tellement prisonnier de son crime que si à un moment donné, on trouve le mot juste, d'ailleurs, on ne se rend pas compte souvent, qui, dans sa tête, s'imprime et résonne comme une balle de ping-pong, il est capable de vous dire, 15 jours après, « Ah, tu m'as dit quelque chose là, ça m'a permis de changer mon orientation, ça m'a permis de changer mon chemin, et j'ai mieux compris quelque chose que je n'avais pas compris. » Et je me souviendrai toujours, c'est l'objet du livre que j'ai écrit 44 ans en prison chez Salvatore 2014, parce qu'on m'a demandé de l'écrire. J'ai rencontré un détenu qui était incarcéré dans la prison de la prison, c'est-à-dire le cachot, le mitard. Et il me dit, au fond, j'ai compris une chose. La miséricorde, c'est une corde tendue à la misère pour ne pas se pendre. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que pouvait être la grâce de la présence de Dieu chez des gens qui sont misérables. On est confronté à la misère humaine. Et quand on sait ce qu'ils ont vécu, on se dit souvent, si moi j'avais été à sa place, je serais peut-être si j'avais vécu ce qu'il a vécu, je serais peut-être à sa place. Alors vous savez, les aumôniers de prison, qui sont des laïcs hein, souvent, et des prêtres, ce sont des gens qui apprennent l'humilité hein, dans la misère humaine. Point.
Pour revenir sur cette question du pardon des familles, il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à pardonner, parce que quand on a un proche qui est incarcéré, Jean-Louis Grenier, ça bouleverse toute une vie, toute une existence.
Tout à fait. On l'oublie souvent. Lorsqu'il y a condamnation, lorsqu'il y a prison, assez souvent, c'est le père de famille, c'est un homme qui est incarcéré. Je rappelle que seulement, si on peut dire, les femmes représentent 3,5% de la population incarcérée. Donc, le plus souvent, donc, ce sont des hommes. Et lorsque le père de famille entre en prison, eh bien, il s'ensuit une perte de salaire, il s'ensuit une séparation donc, dans l'organisation de la famille. La mère se retrouve seule à tout gérer. Au moment du procès, il y a la question des avocats, dont des problèmes d'argent qui se posent. Sans parler de tout le stress, de toute l'inquiétude, des incertitudes qui pèsent sur l'avenir. Donc, situation quand même pour les familles extrêmement, extrêmement compliquée.
Bernard Gimonet, un avis là-dessus ?
Ben oui, parce que quand on parle effectivement de victimes, pour employer un terme militaire, il y a les victimes collatérales aussi. Hein. C'est-à-dire que il y a la victime qui est celle qui a subi l'agression, mais il y a aussi autour et la famille. Et la famille est vraiment une victime. Et c'est vrai qu'elle est souvent la grande oubliée, quoi. Et quand, par contre, on a eu des expériences extraordinaires à la radio quand on animait l'émission du téléphone du dimanche. Et je me souviens aussi d'un cas particulièrement douloureux, c'est-à-dire que là, c'était le contraire. La mère de famille avait un fils incarcéré et elle lui accordait tout son amour et tout son soutien. Mais lui, pour des raisons qui lui étaient propres et que personne n'est arrivé à élucider, même les aumôniers sur place qu'on avait sollicités, lui ne voulait plus avoir de contact avec sa famille. Alors, est-ce que il avait trop honte de ce qui lui arrivait? Est-ce que il reprochait à sa famille de l'avoir mal soutenu? Est-ce que il y avait des drames antérieurs enfouis? On ne l'a jamais su, mais toujours est-il que là, on était. Vous voyez, on peut pas parler de manière générale parce que il y a toujours des cas particuliers qui échappent à toute tentative de généralisation. Jean-Louis.
Oui, ce que je voudrais souligner, c'est l'extrême fidélité des femmes lorsqu'elles ont un fils ou un conjoint incarcéré. On voit ces femmes qui organisent toute leur vie autour de la prison, autour des parloirs, le week-end lorsque c'est un centre de détention, et où elles font des efforts mais absolument immenses pour faire garder les enfants, pour les amener dans le train, dans des conditions très pénibles, très compliquées. Et c'est là où l'association Roqueclair a un rôle à jouer dans l'hébergement, dans l'accueil, le soutien dans les transports, etc. Et ces familles-là, et ces femmes-là en particulier, tiennent le coup pendant toute la durée de l'incarcération. Et il faut remarquer, malgré tout, que lorsque c'est la femme qui est incarcérée, dans le cas de 3,5%, les hommes sont beaucoup plus fragiles. Et dans les premiers temps, ils suivent un peu, ils s'en occupent. Et puis, avec le temps, ils se détachent un peu plus facilement. Alors que les femmes, vraiment, tiennent le coup jusqu'au bout, en général. Et c'est frappant presque de l'extérieur de voir à quel point elle s'implique dans cette démarche et elle ne se pose même pas la question. Elle ne se pose aucune question, c'est comme ça, on suit, on y va.
Père Bernard Dupuy-Montbrun, Jean-Louis Grenier l'a dit, les femmes sont remarquables dans l'accompagnement d'un proche qui est en détention. Où elles vont puiser cette force? C'est le Christ qui agit aussi à travers elles.
Oui, si vous voulez. Bon, moi j'ai connu un peu la maison d'arrêt... quelques mois où j'ai rencontré des femmes en détention, mais je célébrais simplement la messe quand il le fallait. J'ai moins d'expérience que Jean-Louis là-dessus, mais je vais un peu dire autrement les choses, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut bien comprendre dans ce combat pour le pardon quelle est la position du chrétien. Je dis bien du chrétien. Bon, je suis prêtre avec vous et chrétien, prêtre pour vous et chrétien avec vous. Nous sommes convaincus que Dieu ne confond pas l'homme avec son crime, que nous ne sommes pas confondus avec le péché, mais à condition qu'on puisse le regarder en face et qu'on puisse apprendre à le reconnaître. Donc il n'y a pas de salut sans que le condamné ou même nous-mêmes puissions progresser si on n'arrive pas à regarder en face quel est le mal que l'on a commis. Bon. Donc ça s'apprend, si vous voulez. Et ça, c'est le combat que nous menons. Et puis, on ne confond pas le détenu avec son crime parce qu'on sait que son crime est aussi le résultat d'une action diabolique absolument atroce qui consiste à faire en sorte que quand on est confronté à des difficultés dans l'existence, qu'on n'a pas l'état d'esprit suffisant pour les affronter, pour des raisons dont on est responsable ou pas, le mal est toujours là pour nous inviter à la perversion, Ah oui, tu as envie de tuer, mais c'est bien, mais c'est la solution, il n'y a plus que ça à faire. Alors que tu aurais pu divorcer comme tout le monde, si bon, c'est ce que je dis souvent à des condamnés, mais comment ça se fait que tu as tué ta femme? Tu aurais pu divorcer comme tout le monde. Ah ben non, j'ai pas pensé. Ben oui, tu n'as pas pensé, mais il fallait peut-être y penser. Alors, il y a un combat entre le bien et le mal, si vous voulez, qui est terrible. Et que ce soit vis-à-vis d'une femme incarcérée ou vis-à-vis d'un homme incarcéré. Et c'est un combat qui est fondamental aussi bien en détention qu'à l'extérieur de la prison. C'est vrai pour tout homme, pour tout chrétien. Donc, on ne confond pas l'homme avec le mal, mais encore faut-il que le mal soit dénoncé. Et c'est notre liberté.
Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Peut-être je sors de ton schéma, là, mais je crois qu'on a, peut-être oublié, on l'a juste suggéré, de dire que le pardon, c'est quelque chose qui est l'ordre de la paix et de la guérison.
Et de la réparation.
Et de la réparation
aussi.
Et ça, c'est vrai pour les chrétiens et pour les non-chrétiens.
Absolument.
Ça c'est vrai pour tout le monde. Et le pardon n'est pas l'oubli.
Ah oui. Plus.
Et quand le Christ guérit le paralytique, il lui dit « Prends ton grabat et va-t'en ». Ça veut dire « N'oublie pas ta vulnérabilité ». Et donc, mais il ne faut pas non plus aller jusqu'au point où la personne détenue traîne sa culpabilité toute sa vie comme un boulet. La société est là suffisamment pour le faire. Ce n'est pas la peine que lui en rajoute. Mais il ne doit pas non plus l'oublier. Quelque chose me choquait un petit peu de temps en temps, c'était quand j'entendais quelqu'un dire « Voilà, j'ai purgé ma peine, j'ai payé mes parties civiles, j'ai payé ma dette. » Et l'un d'entre eux, avec qui j'étais suffisamment rentré profondément, j'ai dit « Est-ce que tu crois qu'on paie définitivement la dette quand on a pris une vie, par exemple ?» Il m'a dit « Et non, tu as raison. » Mais ceci dit, cette idée ne doit pas non plus être vécue comme un fardeau, comme un boulet qu'on traîne à vie, quoi. Hein? Parce que quand les personnes détenues sortent de prison, ceux qui ont fait la démarche suffisante, ils sont quand même marqués à vie. Hein.
Oui.
On ne marque plus les forçats au fer rouge, mais certains sont marqués.
Ils sont stigmatisés. Hein. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Hein. Il ne faut pas rêver. Donc, il y a la justice des hommes qui s'applique tant bien que mal, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et heureusement que Dieu existe. Hein. Quand on sort de prison, on est content de savoir que Dieu existe, croyez-moi. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est celui de la tendresse, de la charité, qui n'est pas du tout du bisounours. Parce que c'est un combat. Le christianisme, c'est un combat contre la mort. Le contraire de la mort, c'est l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la mort. Et donc, on ne cesse pas de combattre pour que la vie de Dieu, soit même chez le plus grand des criminels. Voilà.
On va faire une petite pause musicale pour permettre aux auditeurs et à vous aussi de souffler. Et je vous donne déjà la thématique de la troisième et dernière partie de cette émission. C'est le pardon de la part de la société. Est-ce que cette société peut et doit pardonner? Comment? Il faut voir les détenus. Mais juste avant, on parlait d'amour avec le père Dupuis-Montbrun. On écoute « Vivre d'amour » de Natacha Saint-Pierre.
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Piloter mer, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Dit le monde, cessez de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement sachez les employer. Des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrassé. Je veux le voir venir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et avec Jean-Louis Grenier de l'association Roque Claire, Bernard Gimonet et le père Dupuis Montbrun. On va rien cacher aux auditeurs. Pendant la pause musicale, on s'est dit qu'il y a un point qu'on n'a absolument pas abordé. On parlait du pardon de la part des mères, des épouses. Mais de la part des enfants, ce pardon, il est extrêmement difficile parce qu'il y a perte de repères, perte de maternité ou de paternité, mais plus de paternité, Jean-Louis Grenier.
Oui, pour les enfants, la situation est très compliquée, notamment dans la relation entre la mère et son fils et son enfant. La tentation est assez grande de ne pas forcément lui dire la vérité. Dans le but de le protéger par rapport à l'école, notamment. Donc quand on dit à son enfant que papa travaille dans un lieu qui est quand même un petit peu bizarre, parce qu'il y a beaucoup de portes, il y a des gens en uniforme, on pose quand même quelques questions, mais la mère répond ou elle ne répond pas, enfin, c'est quand même assez difficile. L'autre aspect très compliqué, c'est pour la personne incarcérée, que ce soit le père ou la mère, le plus souvent le père, qui est l'exercice de la paternité. Lorsque l'on dit la vérité à l'enfant, on lui dit souvent « papa a fait une bêtise, une grosse bêtise, et donc il a été puni. Il a été puni, il est en prison. » Mais il n'empêche donc que le père, le papa, garde son droit de père. Et dans l'exercice de la paternité, il est difficile pour quelqu'un qui a été gravement puni d'expliquer à son fils la différence entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et il y a là quand même tout un environnement qui est compliqué, et lorsque c'est possible, ces familles méritent d'être accompagnées d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours simple pour des questions de temps, pour plein de sujets.
Le dernier point que je voulais aborder, c'est le pardon de la part de la société. Est-ce que déjà, en tant que visiteur et aumônier de prison, vous voulez préparer les détenus à revenir à la vie civile, Bernard Gimonet?
Alors, on n'est pas censé le faire. Non seulement on n'est pas censé le faire en tant qu'aumônier, mais on nous interdit presque de le faire. en disant votre rôle, c'est d'accompagner les personnes détenues à l'intérieur de la prison. À l'extérieur, il y a des associations qui font ça et vous n'avez pas à interférer. Sauf que ça, c'est les principes, et comme tout principe, de temps en temps, il se heurte aux réalités. Et quand un gars se trouve dehors, devant la porte de la prison avec ses colis, et que la fouille lui a perdu ses papiers, sa carte d'identité, sa carte vitale, l'aumônier ou le visiteur d'ailleurs, parce que bon, c'est tombé sur une fois sur les aumôniers, mais les visiteurs font aussi beaucoup. Et là, du coup, l'administration oublie un peu ses principes quand elle ne nous demande pas d'intervenir. Mais il faut reconnaître que c'est quand même mineur, quoi. C'est pas le rôle des aumôniers, on pourrait pas d'ailleurs, d'accompagner tous les gens qui sortent de prison.
Mmh. Oui, non, ça c'est le travail du service social. Maintenant, il est vrai qu'il y a une misère telle que parfois il y a des libérés qui sortent avec la valise, les cartons, et il n'y a personne pour aller les chercher. Mmh. Ils comptaient sur un tel de la famille, mais personne ne vient.
C'est violent, hein, j'imagine.
C'est surprenant. Alors, ils nous téléphonent parce qu'ils arrivent à nous joindre quand même, ils nous connaissent. Et le bon père Pierre Proto, qui est l'aumônier actuel de prison, connaît cette expérience. C'est d'ailleurs lui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Et il a souhaité qu'on puisse en parler. Mais il a vécu tout à fait concrètement cette chose-là, avec un gars que j'ai bien connu aussi. Et il a fini par l'embaucher comme cuisinier. Dans le cadre du presbytère, il ne faut pas le répéter, mais il n'avait plus personne pour l'accueillir à la sortie. Donc il est allé le récupérer et il fait de très bons plats. Il est très bon cuisinier. Bon, c'est un petit exemple, mais si vous voulez, on est confronté à des situations inattendues. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'ennuie pas beaucoup, hein.
Justement, le regard de la société sur les personnes détenues, il est dur. Est-ce que un prisonnier peut redevenir digne de confiance? Est-ce qu'il peut se réinsérer de manière normale dans la société? Jean-Louis Grenier.
Oui, alors un prisonnier donc qui sort à sa sortie, il y a un petit peu deux cas de figure. Soit il sort en fin de peine, ou ce qu'on appelle aussi parfois sortie sèche, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il sort. Et puis à lui de se débrouiller. Il y a un autre cas, dans le cas d'un aménagement de la peine, c'est-à-dire qu'il sort avec une sortie un petit peu anticipée, avec une contrepartie qui est liée à un accompagnement par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. On passe du milieu fermé au milieu ouvert. Et dans ce cas, cet accompagnement permet d'assurer une certaine transition. Pour dire aussi que le retour à la société, ce qu'on appelle la réinsertion, est quelque chose qui se passe pas très naturellement et qui ne va pas de soi. Parce que au regard de la loi, lorsque la personne incarcérée qui a été condamnée a purgé sa peine, eh bien, elle est quitte de sa condamnation, elle retourne dans la société. Mais c'est pas si simple, parce que la société n'oublie pas. Et ce qui n'oublie pas du tout, il y a dans l'évolution de la société ce qu'on appelle les réseaux sociaux, et en particulier tout ce qui touche à Internet et une certaine application qui s'appelle Google, et il y en a d'autres. Si vous tapez le nom d'une personne qui a été condamnée, eh bien 20 ans après, 25 ans après, eh bien vous allez avoir les articles de la presse qui ont paru à l'époque de la condamnation. Et ce qui fait que on parle dans certains cas d'un droit à l'oubli par rapport à une condamnation. Eh bien là, le droit à l'oubli, il n'existe pas du tout. Et mettez-vous à la place d'un employeur qui reçoit un CV avec quelques trous un peu dans le CV, quoi, parce que quand vous avez été incarcéré, on peut expliquer qu'on a fait certaines choses, et puis d'autres, bon, il y a des fois des choses qui sont, même si on essaie de les cacher un peu, parce que en étant en prison, on peut quand même travailler. 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, l'employeur, il va taper le nom de la personne, hein, sur son ordinateur. Et là, les choses sont quand même assez compliquées, parce que dans l'état d'esprit, en général, la société, eh bien, pardonne très difficilement. Et dans l'ambiance générale, où il est dit que la justice est laxiste, ce qui n'est pas vrai si on le regarde dans le détail un peu plus précisément, eh bien, il y a tout un état d'esprit là, général, qui se développe, où on devient très méfiant par rapport à une personne qui sort de prison.
Et je vois que le père Dupuy-Morin et Bernard Gimonet valident ce que vous venez de dire. On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est passé très rapidement. Merci à tous les trois d'avoir participé. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région. Eh bien non, on n'a pas l'agenda de l'Église dans votre région, ce n'est pas grave. Peut-être le mot de la fin, père Dupuy-Morin.
Écoutez, rien n'est perdu. L'important, ce n'est pas de tomber, mais de se relever. Et si on arrive à aider quelqu'un à retrouver le goût de vivre et à faire le bien, eh bien, il est sauvé. C'est le combat que l'on mène.
Merci à tous les trois encore d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, auditeurs, de nous avoir écoutés et d'être fidèles à l'antenne de Radio Présence. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission et nous serons en direct de la maison diocésaine de Rodez pour parler de la future ordination du père Luc Meyer. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet radioprésence.com. Vous pouvez aussi la réécouter ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.